Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. C'est un sculpteur que nous recevons aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Depuis les années 50, Claude Abeille interroge notre humanité fragile à travers des œuvres massives où l'absence tient pourtant une place de choix. Il a commencé par des torses sans membres, puis s'est lancé dans un vestiaire de vêtements vides, mais d'une grande puissance expressive. Il a aussi installé de nombreux groupes de pierre ou de bronze dans des espaces publics. Nous allons essayer de comprendre ce cheminement qui l'a conduit à l'Académie des Beaux-Arts en 1993, mais ne cesse d'évoluer encore aujourd'hui au gré de variations subtiles. Il nous l'a dit tout à l'heure, il pense qu'il n'a peut-être pas tant changé que ça, et vous allez nous l'expliquer. Bonjour Claude Abeille.
Bonjour, bonjour. Je suis très, très heureux d'être en face de vous. Voilà.
Vous avez créé de nombreuses sculptures qui se trouvent aujourd'hui soit dans les espaces publics, nous l'avons dit, soit chez des collectionneurs. Quel rapport entretenez-vous avec toutes ces œuvres qui se sont accumulées au fil des années ?
Eh bien, je les regarde effectivement suivant une sorte de schéma historique, si je peux dire. C'est qu'il y a, mes œuvres du début et puis les œuvres ensuite qui se sont perpétués ensuite. Évidemment, quand je les regarde, il y a une démarche qui s'est développée au fur et à mesure. Tout au début, quand j'ai commencé à faire des torses, c'était un peu pour me poser des questions sur moi-même, parce que en réalité, au départ de ma vie, je voulais pas tellement être sculpteur, je voulais être peintre surtout.
Ah
et,
bon
et ce n'est que aux arts décoratifs que on a fini par me dire, mais vous êtes sculpteur. Je me souviens, j'étais élève de Robert Couturier et un jour il m'a dit oui, bon, ben vous, ça va, vous êtes sculpteur. Or, à ce moment-là, je ne voulais pas tellement faire la sculpture et c'est ça qui m'a quand même ouvert un peu les yeux. Je me suis dit, mais peut-être qu'en effet, j'ai en moi quelque chose qui ferait que je suis un sculpteur. Alors, à partir de ce moment-là, ben, j'ai commencé à réfléchir, à regarder de plus en plus les sculptures autour de moi, voir. Et au fond, très vite, je me suis dit oui, ben, en effet, c'est ça mon affaire. Mais comme je ne savais pas très bien où je voulais en venir, parce que c'était une découverte, et je me suis dit, mais je vais commencer par faire des choses extrêmement, assez banales, finalement, des torses de femmes. Il y a des torses de femmes dans tous les musées depuis toujours. Donc c'est un thème tout à fait simple, enfin simple. Donc c'est complexe, mais enfin c'est un thème qui est habituel. Donc j'ai commencé à faire ça. Et pour m'interroger moi-même, pour me dire, mais devant une chose banale, en fond, qu'est-ce que moi je peux faire ? Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des constantes dans ce que je faisais, choses que je ne connaissais pas. Et bon, j'ai découvert un certain nombre de constantes. Donc,
par exemple ?
Par exemple, la verticalité. Qui est, bien sûr, la sculpture est souvent verticale, mais enfin, il y a des sculpteurs qui ont, par exemple, Henry Moore, en Angleterre, il y a beaucoup de ces sculptures qui sont au contraire horizontales, enfin, le désir de prendre de l'espace horizontal. Tandis que moi, visiblement, c'était la verticalité qui m'intéressait.
Les stèles même que nous retrouvons beaucoup dans vos œuvres.
Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir ce que je pouvais faire, voilà. Et bon, alors par la suite, évidemment, ça n'a pas. J'ai évolué vers d'autres choses, mais tout en gardant, cette obsession, peut-être, on va dire, mais cette obsession de la verticalité. Je ne suis pas le seul sculpteur à avoir ça, bien sûr, parce que c'est vrai que pour être visible, il faut bien être. Oui, la verticalité est un élément très important pour ça, bien sûr.
Voilà. Et au fond, justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette verticalité ?
Alors, il y a évidemment... bon, c'est parce que c'est assez difficile à dire. Mais cette verticalité, c'est comme, un peu comme les plantes. Elles se dressent dans la hauteur pour conquérir un certain espace, pour pouvoir prendre le soleil... Et il se trouve que la sculpture, de manière très importante, se fait avec des plans. Ce qu'on appelle, les sculpteurs appellent ça des plans, c'est-à-dire des surfaces qui vont être chargées de prendre de la lumière. Donc, et ça, c'est une particularité de la sculpture qui est absolument universelle. Les plans, c'est quelque chose qui existe dans l'art africain, l'art japonais, l'art chinois, l'art grec, enfin, bon, tous les arts, parce que c'est ce qui capte la lumière et qui permet de faire, en quelque sorte, bouger la sculpture, qui permet l'expression du mouvement. Et bien sûr que quand j'ai commencé à utiliser la métaphore des vestes, enfin pour dire quelque chose, les plis se sont trouvés tout à fait capables de devenir des plans. Donc ce sont à la fois des plans et des plis, si j'ose dire. Voilà.
Le corps occupe une place importante dans votre œuvre. On le retrouve dans ses torses. Il est absent, mais terriblement présent à travers tous ces vêtements vides que vous avez créés. Peut-être que vous pourriez nous expliquer votre vision, pour commencer, du nu contemporain qui est très présent dans toute la série des torses.
Alors ça, c'est au début. Je ne me posais pas trop de questions sur le sens de la sculpture. Donc je faisais des nus de femmes, mais qui ne sont pas faits d'après nature du tout. C'est simplement voilà. Évidemment, j'ai dessiné beaucoup de femmes, beaucoup de comme tous les débutants bien sûr, mais non. Les premiers torses sont c'est vraiment pour savoir ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. De manière instinctive. Et c'est ensuite que je me suis posé la question... bon, je peux raconter cette histoire parce que il se trouve que j'avais un travail très fatigant de sculpteur, parce que j'avais eu une commande de monument près de Grenoble, et je taillais une pierre, une très grosse pierre qu'on n'avait pas pu entrer dans un hangar parce qu'elle était trop lourde, trop grosse. Donc je travaillais, et c'était en hiver, et je travaillais toute la journée à tailler cette pierre quasiment dans la neige. Donc j'étais fatigué le soir, et alors un soir j'étais allongé sur mon lit dans un hôtel, et puis je suis pris comme ça d'une idée, au fond, si je mourais maintenant, qu'est-ce qui resterait de moi, et j'ai vu devant moi, sur le mur, était accroché mon imperméable. Ben, je me suis dit, ben voilà, il resterait mon imperméable. Et alors, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais ben oui, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, enfin, Alors que jusqu'à présent, j'avais pris les vêtements pour une sorte de facilité de la sculpture. Oui, on drape, le drapé. Enfin, à l'école des beaux-arts, c'était très, 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 très facile. On trempait un linge dans le plâtre et tout ça. Bon, mais ça, j'étais tout à fait contre ça. Mais en réfléchissant, je me suis dit, mais après tout, le vêtement, c'est bien. Nous avons tous un vêtement et ça nous caractérise. Il y a les uniformes. Il y a, enfin, ça nous. Oui, le vêtement parle. Le vêtement dit beaucoup de choses de nous. Et à ce moment-là, je me dis, mais la sculpture. Et alors, je me suis bien rendu compte aussi que j'étais pas le premier à voir ça, puisque l'art grec, bien sûr, mais surtout l'art de la contre-réforme. En Italie, les vêtements ont une importance énorme pour caractériser des gestes, le geste des personnages représentés. Bref, ça m'a paru tout à fait être... Et comme ce n'était pas tellement courant, puisque là, moi, j'ai travaillé surtout dans l'univers artistique où l'art abstrait était tout à fait triomphant. Donc, c'était dans les années 60, 70, 80. Bon, alors, pour être dans le coup, comme on disait, il fallait faire de l'abstraction, bien sûr, qui n'était pas si nouveau que ça, puisque c'était déjà entre les deux guerres et même avant la Première Guerre mondiale. Mais enfin, c'était quand même ce qu'il fallait faire. Et moi, j'étais un peu en dehors de ça, et je me suis dit, mais voilà, je vais me servir de ces vêtements pour dire quelque chose de vrai, ou quelque chose qu'on peut voir. D'un autre côté, refaire du nu... bon, la sculpture avait paru... Pour être un sculpteur, devait faire un éloge, en quelque sorte. La sculpture, c'est un éloge. Comme dit Hegel, penser, c'est louer. Bon, et faire de la sculpture, c'est faire une louange, naturellement. Or, après les deux guerres monstrueuses, moi, je ne voyais pas trop de louange à faire. Au contraire, on pouvait faire autre chose. Essayer de dire ce que je voyais, des gens, de moi-même. Et le vêtement m'est apparu comme la métaphore la plus apte à exprimer ça. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait ensuite et que je fais toujours parce que c'est quasiment inépuisable.
Et quelle est la place du vide dans ces œuvres? Est-ce que c'est vraiment un vide, d'ailleurs?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que là, le vide, c'est simplement... c'est une question un peu philosophique. Qui sommes-nous, quoi? Voilà. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une chanson, il y a une trentaine d'années, où je ne sais plus quel chanteur disait « une noix, qu'est-ce que c'est ? Une noix, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ?» Voilà. Bon, ça m'avait beaucoup amusé. Et, en nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors, ce qui nous caractérise, c'est le langage, évidemment. Les religions sont faites de langage, bien sûr, et la pensée s'exprime par le langage. Donc, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une énigme. Donc, le monde est une énigme et nous sommes nous-mêmes, je pense, voilà. Je me souviens d'une phrase de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors, le sculpteur que je suis, je me disais, mais pourquoi je vais ajouter quelque chose? Il faudrait que ça ait un sens. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, la chance, c'est qu'il y a effectivement une question, qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Alors, je ne sais pas, mais ce que je peux dire, c'est on peut en parler. On peut en parler, il y a un langage, et nous en parlons, voilà. Et d'ailleurs, c'était un peu aussi par une idée un peu plus stupide, c'était que je m'étais aperçu que les sculptures en bronze, elles sont vides, elles sont creuses, naturellement. Et donc, y a une sorte de, oui, une sorte d'idée comme quoi la sculpture est vide à l'intérieur, donc il faut qu'elle s'exprime par l'extérieur. Et c'est vrai de la sculpture en pierre aussi. Et donc, un de mes torses est un torse creux qui exprime cette chose-là, mais on ne peut pas rester devant cette énigme comme ça, parce qu'il y a autre chose qui est la vie, tout simplement. Et à partir du moment où je me suis intéressé aux vêtements, ben, j'ai bien vu que le vêtement bougeait et que c'était la vie qui était la chose la plus importante à dire, quoi. Voilà.
Après ces torses, après ces vêtements, beaucoup attendaient, on le voit en lisant les critiques d'art, que vous arriviez au visage, qui ne sont très peu présents en fait tout au long de votre parcours. Est-ce que vous-même, vous vous disiez qu'in fine, vous en arriveriez à faire des portraits comme une fin un peu inéluctable?
Alors, j'ai fait quelques bustes, mais sans me poser trop cette question-là. J'ai fait des bustes en essayant d'être ressemblant, non seulement de la ressemblance physique, mais aussi pouvoir exprimer quelque chose de plus moral ou de plus, pas dire un peu plus sur la personne que je représentais. J'ai fait le buste de Jacques Treffel, qui était à l'Académie avec nous, et le buste de Ennio Floris. C'était un philosophe italien et aussi d'un musicien qui était un ami. Donc j'ai fait certains bustes, mais je ne me suis pas trop posé la question, en effet, quel est le visage que nous aurons plus tard, parce qu'on voit bien, on reconnaît un visage roman, un visage gothique, un visage de la Renaissance, on le voit très bien, mais notre visage à nous, Giacometti a essayé aussi de faire, et il est vrai qu'il a réussi à dire quelque chose sur notre visage, mais ce n'est pas ce que j'ai moi essayé de faire. Je l'ai fait, mais sans avoir le désir trop de dire de mettre un visage. Voilà. Donc j'ai préféré rester à cette métaphore du vêtement qui exprime la vie. Voilà.
C'est important pour vous de répondre aux questions d'aujourd'hui, de créer l'art d'aujourd'hui. Vous parliez des visages contemporains.
Oui, mais je veux dire, je ne participe pas à cette aventure-là. Bien sûr, quelquefois, j'en ai bien envie, mais quelquefois, j'essaye aussi, mais ce n'est pas. Je ne crois pas avoir les possibilités de le faire que Giacometti avait, par exemple. Giacometti, c'était une obsession. Le corps humain, et donc il arrivait à le définir jusqu'à ce que soit uniquement une armature ou quelque chose comme ça, qui était une réflexion sur l'homme contemporain, bien sûr. Non, moi, c'est plutôt vers le désir d'exprimer la vie sur une question, à partir d'une question. Voilà, c'est une question. Oui, qui sommes-nous ? C'est pas nouveau, ça, c'est pas nouveau, mais ça se pose toujours. Donc c'est une question qui reste toujours, et seule la vie peut répondre à cette question. Et si on peut exprimer de la vie, c'est ce qui me plaît à moi, bien sûr. Voilà.
Vous parlez de la vie, comment donner vie à la matière inerte ?
Ben c'est justement, c'est le mouvement. Alors, le mouvement, si vous voulez, la matière, elle est inerte, mais il faut, la sculpture est chargée en quelque sorte, de la faire bouger. Donc, alors, d'ailleurs, comment dire ? Effectivement, pour les sculpteurs ou même pour les peintres, il y a une sorte d'immobilité des choses. Et cette immobilité doit être à la fois discutée, exprimée, contrecarrée par l'expression des mouvements. Et ça, ce sont les plans qui, la plupart du temps, enfin, il n'y a pas que ça, mais qui expriment les choses. Mais, par exemple, il y a une chose curieuse, c'est que les mobiles de Calder, qui normalement bougent, et d'ailleurs on peut les faire bouger, mais ce que disent ces mobiles, c'est plutôt un état d'équilibre. Une fois que le mouvement est terminé, ils expriment plutôt, un équilibre, un calme, quelque chose. C'est un peu le contraire. C'est-à-dire, ils redisent que la chose est immobile, tandis que la sculpture a comme, essaye de dire que l'immobilité est aussi la vie. Enfin, c'est. Il y a une contradiction, mais c'est ça qui fait, qui exprime la chose. Et je dirais, dans la musique, il y a ça aussi. Mais la musique, c'est le contraire, parce que la musique, c'est l'expression du temps, donc ça se déroule, il y a un certain temps. Et il y a une chose, il y a un morceau de musique que je trouve extraordinaire, c'est dans le concerto. De Ravel pour piano dans la partie centrale, il y a un moment où le piano joue tout seul pendant un certain temps, et c'est extraordinaire parce que ça se passe évidemment dans le temps, mais que le motif revient constamment, il se défait, il se refait, il se défait, il se refait, et finalement on voudrait que ça ne bouge plus, que ça reste comme ça, on n'a pas envie que ça s'arrête, et donc par le mouvement, il exprime une sorte de désir d'immobilité. Voilà. Donc c'est exactement le contraire de la sculpture qui, fait du mouvement, mais le mouvement qui est sur l'immobilité. Voilà. Ce sont des contradictions qui sont, au fond, c'est le sel de la chose. Voilà.
Et vous, quelle est la part du temps dans votre travail, Claude Abeille ?
Oh ben, il faut beaucoup de temps. Voilà, il faut beaucoup de temps, parce que on ne sait pas, on ne sait jamais quand on va arriver à faire la chose qui vous plaît. Chaque artiste, comme tout le monde d'ailleurs, a quelque chose en lui-même qui décide des choses. Ce quelque chose, on ne sait pas, justement, il y a une interrogation. Nous ne savons pas qui décide, c'est nous-mêmes, mais qui sommes-nous ? Donc, dans la sculpture, il y a tout un travail, on s'est plus ou moins fait un programme, et on essaye de le faire, mais il y a un moment où il faut attendre que quelque chose se passe pour que la sculpture elle-même révèle une présence qui lui appartient à elle et qui n'appartient plus au sculpteur. Donc la sculpture devient en quelque sorte elle-même. Et donc à partir de ce moment-là, ça c'est un moment de très grand plaisir, parce qu'on on dit, ben, ça y est, la chose, elle y est presque. Et à ce moment-là, le sculpteur se dit, mais... Eh bien, il faut que je suis en quelque sorte au service de cette sculpture. Alors que jusqu'à présent, c'était moi qui essayais de la faire, mais maintenant, elle est devant moi, elle existe. Alors, elle n'est pas finie, elle n'est pas... je suis à son service. Donc, le talent, si on en a, devient en quelque sorte serviteur de quelque chose qui vous dépasse un peu, ou qui n'est plus vous-même, mais qui est autre chose. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à avoir une présence, la présence de quelque chose devant soi. Et c'est cette présence, d'ailleurs, que ceux qui aiment la sculpture, c'est cette présence-là à laquelle est sensible le public, qui voit bien et que quand il est un peu informé, mais enfin sensible en tout cas, il ressent cette présence, donc qui est entre le public et soi-même, dont on pourrait penser qu'on est responsable, mais en réalité, finalement, ça s'est presque fait tout seul, quoi. Voilà.
Vous aimez dire qu'une sculpture n'est jamais finie. Pourquoi ?
Non, parce que... Alors, ça, c'est un problème, si vous voulez, le... Non, elle n'est jamais finie parce que elle doit exprimer une contradiction entre le mouvement et la stabilité. Ce qui n'est pas le cas d'autres objets qu'on fait qui doivent être parfaits en quelque sorte. Un bol pour on va boire dans un bol, il faut que le bol soit il est parfait et on sait comment faire pour qu'il soit parfait. Donc on connaît la perfection du bol, on sait le faire et puis on le fait, voilà. Mais le bol n'a rien de plus à dire que il sert quelque chose. Tandis que la sculpture, ou l'art, au fond, la peinture, on ne sait pas tellement à quoi ça sert. Sinon, dans le grand art, il me semble, ça sert à poser des questions. Si vous voulez, c'est une interrogation. La peinture, la musique, la sculpture, c'est une interrogation. Donc, cette interrogation n'exprime pas la perfection, on ne peut pas. Elle peut simplement être particulièrement habile, intéressante, vivante, mais la perfection n'est pas, ne la concerne pas, quoi. Voilà, puisque oui, on ne peut pas. Si on le savait, on le dirait, et on ne le dit pas. On peut pas le dire. Voilà.
Alors, nous n'avons pas encore évoqué vos sculptures créées pour l'espace public, qui sont même parfois des groupes de sculptures, des archipels, notamment dans des écoles, mais aussi sur des places. Et il me semble qu'il y a une dimension un peu théâtrale dans certaines de ces créations, même parfois dans d'autres sculptures. On pourrait avoir l'impression qu'elles dialoguent les unes avec les autres, que chacun tient un rôle, qu'il y a une posture. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette approche ou pas du tout?
Oui, alors les sculptures que j'ai faites dans le domaine public, c'est à la fois un très grand plaisir que j'ai eu à les faire et en même temps un peu, je dirais, un peu mélancolique parce que je ne suis pas sûr que ça se soit passé dans des circonstances si favorables que ça. C'était Malraux qui avait décidé ou mis en œuvre ce qu'on appelait le 1%, c'est-à-dire que les municipalités ou les écoles, il y avait 1% du budget qu'il fallait consacrer à une œuvre d'art, etc. Bon. Et bon, le projet était très, très, très sympathique, mais il aurait fallu que ça corresponde peut-être à un mouvement plus fort de la société. Je ne suis pas sûr que ça ait correspondu à ça. Les architectes ne s'intéressaient pas complètement à la sculpture. Ils étaient plutôt, eux, dans un monde où ils considéraient leur architecture comme elle-même une sculpture. Les sculptures qui ont été faites pour le 1% ont rarement été accueillies réellement, vraiment. Je ne sais pas. Il y a eu un peu une contradiction. Mais moi, j'ai quand même fait des choses. J'ai fait notamment une sculpture de théâtre à Istres, non pas à Istres, à près de Grenoble, à Villefontaine. Voilà. Mais là aussi, c'était un peu déçu parce que j'avais conçu une grande fontaine, des fontaines qui pouvaient se transformer très facilement ou être utilisées plutôt très facilement comme un fond de scène pour des jeux de théâtre. Donc les habitants de Villefontaine auraient pu utiliser, se servir de ça pour faire... Mais ça s'est pas fait. Donc j'ai un peu, je suis heureux de l'avoir fait, mais je ne sais pas si ça correspondait à une. Et d'après tous mes amis aussi qui ont fait des choses comme ça, je ne sais pas si ça se pratique encore beaucoup. Voilà, il y a donc un peu pour moi une interrogation, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. J'ai appris d'ailleurs beaucoup de choses en le faisant, notamment tailler la pierre, des choses comme ça. Et aussi le sens de l'espace, le sens horizontal, justement, qui n'était pas mon but final. Mais mes sculptures se sont déployées donc dans un espace horizontal, et j'étais assez content de découvrir ça. Donc finalement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Voilà.
Quels sont les différents espaces d'une sculpture, justement ?
Alors, ben, y a la manière dont la sculpture se présente sous le soleil ou sous l'éclairage. Donc elle réagit comme une plante. Il y a des feuilles, donc il y a des plans, il y a des surfaces, des volumes qui se développent et qui interrogent l'espace autour. Mais aussi, il y a l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a le vide entre les éléments de la sculpture qui joue entre elles. Et donc tout ça fait un ensemble. Il y a l'extérieur de la sculpture et l'intérieur. Et éventuellement, ben moi, quelquefois, j'ai utilisé le vide, comme je vous l'ai dit. Mais d'autres sculpteurs, ce sont un espace entre différentes choses qui font que l'espace extérieur pénètre à l'intérieur de la sculpture et joue son rôle, qui peut être un rôle dramatique, qui peut être un rôle tragique, ou simplement un rôle, je dirais, anecdotique. Voilà. C'est l'espace, de toute façon, l'espace, c'est ce qui est, et c'est l'élément le plus important de la sculpture, l'espace autour.
Et la notion de poids est-elle importante ?
Je ne suis pas sûr, parce que le poids, oui, il y a un poids, mais... le poids, on peut s'en servir comme idée. On peut faire une sculpture qui exprime le poids ou la légèreté. Mais en soi, ce n'est pas une... Non, ce n'est pas... C'est une des qualités de la sculpture, parmi d'autres. La légèreté existe aussi, bien sûr. Jamais enrichir, c'est plutôt la légèreté et le mouvement. Couturier, c'est le vide à l'intérieur aussi qui joue. Voilà, ce sont Giacometti aussi utilise beaucoup le vide. Donc c'est une. Mais le poids existe, bien sûr. Oui. Mayol, c'est servi du poids, bien sûr. Aussi Rodin, bien sûr.
Et vous, quel matériau en particulier avez-vous aimé travailler ?
Alors, moi, ça, je travaille le plâtre, essentiellement. Bon, j'ai travaillé le marbre. J'aimais bien le marbre. Mais ça prend beaucoup de temps. Et tandis que le plâtre, j'ai appris tout ça à l'école, tout simplement, mais ce n'est pas difficile. Je veux dire, j'ai une sorte de métier de staffeur, si on peut dire. Le plâtre avec des éléments qui le relient, de la filasse. Voilà. C'est ça, mon matériau, qui est très proche de la terre glaise. La terre glaise aussi, bien sûr, mais non, le plâtre c'est ce qui me convient le mieux, je dois dire. C'est blanc aussi, ça prend bien la lumière. Voilà, je ne peux pas dire de plus, c'est ce matériau-là que j'utilise.
Vous vouliez être peintre, vous dessinez beaucoup, et vous dites que vos dessins ne sont pas toujours des croquis préparatoires pour vos sculptures. Dans l'ensemble de votre œuvre, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter ?
Alors, c'est un peu autre chose. C'est aussi le désir d'imaginer, si vous voulez, le matériau du dessin, c'est la feuille de papier. C'est ça qui est le plus important, c'est la feuille de papier, sa dimension. Une feuille de papier sans rien, elle veut dire j'ai rien fait, quoi. Voilà, elle dit c'est le néant, voilà. Et à partir du moment où on est sur cette feuille de papier, il faut la faire parler par des traces qui sont dessus. Et ces traces, elles se composent dans un carré ou dans un rond, mais enfin plutôt en général dans un carré ou un rectangle. Et ce sont ces traces qui jouent les unes par rapport aux autres. Donc c'est un peu un exercice qui va conduire à la sculpture, parce que la sculpture, c'est aussi, elle est dans une sorte de vide, et elle doit créer ses propres traces dans le vide. Tandis que dans le dessin, ces traces sont créées dans le vide de la feuille de papier. Alors, est-ce que ce sont vraiment des dessins que je fais d'après... Non, ce ne sont pas des dessins d'après nature, enfin, j'en ai fait, mais non, ce sont des dessins comme ça qui viennent de l'imagination et qui peuvent conduire à des sculptures, mais pas nécessairement. Quelquefois, ce sont des dessins que je fais après la sculpture, pour en quelque sorte la continuer ou dire que j'aurais peut-être dû faire autrement. Donc c'est un remords, en quelque
sorte. Un repentir.
Voilà, c'est un remords. Alors, il y a le dessin aussi que l'on fait en vue d'une commande. Donc on dessine pour présenter la chose. Donc ça, c'est un dessin imitatif. Voilà. Mais... Alors, le rapport entre le dessin et la sculpture est un rapport assez, assez compliqué, parce que ça dépend de chaque artiste. Alors, on prétend que Germaine Richier faisait des dessins préparatoires, soi-disant après avoir fait la sculpture. Bon, c'est une plaisanterie probablement, mais peut-être il y a du vrai, parce que... Une fois la sculpture terminée, on a peut-être envie de la refaire autrement, légèrement. Enfin, ça fait partie de l'entreprise, si vous voulez. C'est dans le temps, le dessin et la sculpture. La gravure, c'est un autre problème. Je fais beaucoup de gravures aussi. Mais là, la gravure, parce qu'il y a un contact avec le cuivre, qui est un contact qui se rapproche beaucoup de la sculpture, parce qu'il y a... La gravure, c'est pas du dessin. Enfin, ça ressemble, bien sûr, mais la gravure est autre chose. Voilà.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui continue de nourrir votre inspiration ?
C'est exprimer la vie. Voilà. Ça, c'est ça. C'est ça, parce que justement, ce que je vois autour de moi. Je dirais pas que je suis trop touché par les circonstances actuelles. Bon. Qui sont un peu pénibles, mais enfin, c'est pas nouveau, ça, quand même. Donc, non, c'est la vie qui m'étonne. Je suis très étonné. Voilà. Les petits-enfants, les autour de moi, les gens qui vivent, Oui, c'est essentiellement ça que j'ai envie de... Je voudrais que ma sculpture exprime surtout la vie. Ça ne veut pas dire que je n'exprime pas non plus des choses plus problématiques, si on veut. Voilà, je pose des questions, si vous voulez. Ma sculpture pose toujours des questions, mais au-dessus de ces questions, et peut-être la réponse à ces questions, finalement, c'est la vie. Voilà. Tout ce que je crois qu'on peut dire ça, il me semble.
La vie, c'est peut-être le mot qui est revenu de façon un peu récurrente durant toute cette conversation. Et nous restons avec pour regarder vos sculptures. Un grand merci, Claude Abeille, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et je rappelle qu'une monographie vous a été consacrée dans la collection faite par l'Académie des Beaux-Arts.
Je vous remercie beaucoup. J'avais beaucoup de plaisir à parler avec vous. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Thank you.